Marc 10, verset 32. Voilà, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Vous avez compris? Ils le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voyez, s'il y a la crainte, c'est le trouble. Je pense à une chose, c'est que le Seigneur lui est capable de ramener la paix. Peut-être que, parce que les aléas de la vie sont là et on subit, on souffre, ça fait mal. Et puis voilà qu'on commence à être dans le doute, craintif. Qu'est-ce qui va se passer demain si aujourd'hui, ça a été la galère. Oui, donc le Seigneur commença à leur dire ce qui devait lui arriver. C'était dans le but de les rassurer, de faire cesser l'inquiétude qui était dans leur cœur. Alors, pour revenir à ce texte-là, il nous serait facile de blâmer les disciples qui, justement, troublés, suivaient le Seigneur avec crainte, alors que lui, physiquement, marchait devant eux. Imaginez pour nous. Seigneur, on sait qu'il est là par la foi. On sait qu'il est dans nos cœurs par la foi. On l'a vu agir. Amen. Mais quand on accumule des bévues, des convenus, ça devient difficile et le trouble peut venir. Alors, la question, c'est, ou plutôt l'affirmation suivante, c'est que celui qui n'a jamais connu cette appréhension leur jette la première pierre. Après, on pourra tout jeter la pierre. Voyez ? Et bien sûr, le Seigneur a su parler comme cela et il peut encore le faire aujourd'hui, mais nous sommes humains. Nous sommes humains, il y a des sentiments qui nous sont propres. Amen. Nous avons notre éducation, notre arrière-plan dans l'éducation et bien sûr qu'il serait facile de tomber, je dirais, comme eux dans l'abattement ou alors eh bien de les juger. Alors si ceux qui avaient déjà vu et connu le Seigneur étaient dans, je dirais, la situation la plus troublante, ils la traversaient bien sûr, que dire de ceux qui ne sont pas encore engagés et qui hésitent justement à le faire? Ils entendent l'Évangile. Ils sont venus plusieurs fois et ils reviennent. Et bien sûr, pour eux, eh bien, la vie est là. Elle leur révèle les aspects les plus difficiles, la contrariété. Que de fois faut-il passer par des temps difficiles? Et bien sûr, quand on lit, ils le suivaient, mais ils le suivaient avec crainte. C'est-à-dire qu'ils le voyaient physiquement, ils étaient avec lui, ils l'entendaient, ils ont vu les miracles et les prodiges. Et encore là, ils le suivaient avec crainte, trouble dans leur cœur. Voyez ? Alors, bien sûr, peut-on les juger ? Ceux à qui nous parlons, nous disons, tu sais, tu devrais t'engager, suivre Jésus, viens fidèlement, tu verras, il te bénira. Et c'est pas facile pour eux. D'ailleurs, ne sommes-nous pas, nous aussi, passés par là ? Parce que j'ai encore pas trouvé quelqu'un qui est né avec la Bible sous le bras et qui n'a pas eu besoin d'entendre l'Évangile, quoi que ce soit. Il était converti, il était beau, il était magnifique, c'était un guerrier, un combattant. Non, je n'ai encore pas vu. Nous sommes tous passés par un moment où, bien sûr, nous avons touché le fond, il nous a fallu eh bien, crier à Dieu, le trouver. Lui s'est révélé à nos cœurs, bien sûr, parce qu'il le désire. Amen. Alors, en essayant de nous mettre un petit peu à leur place, et en nous souvenant également de ce que nous avons nous-mêmes vécu, les circonstances qui nous ont été propres, bien sûr, on va essayer de comprendre, justement, d'exprimer également les combats intérieurs qui peuvent se livrer dans le cœur de ceux et celles qui, avec sincérité, eh bien, ont compris, mais n'osent pas aller plus loin. Quelque part, il y a cette crainte. Alors, il est certain que la voie de Dieu, bien sûr, c'est la meilleure qu'un homme puisse suivre. En convertissant, quand j'ai rencontré Jésus, je veux dire que maintenant, je vis avec un grand V. Vous voyez, je ne survis pas, je vis, parce qu'il n'y a pas mieux. Proposez-moi quelque chose de mieux que l'Évangile, je vous suis. De mieux que Jésus, je vous suis. Je ne prends aucun risque, je ne renie pas le Seigneur, parce que je sais qu'il n'y a pas mieux. Amen. J'ai un vécu avant et j'ai un vécu maintenant. Et il y aura un vécu plus tard aussi, parce que le Seigneur s'y est engagé, il est fidèle. C'est Isaïe qui disait à ses contemporains, Isaïe chapitre 30, verset 21, et je prends en partie, « Voici le chemin, marchez-y. » Vous voyez, la présentation est faite. « Voici le chemin, maintenant marchez-y. » Parce que comme le dit le psalmiste également, c'est le sentier de la vie. Amen. Ici-bas, notre pèlerinage, c'est lourd, c'est difficile. Mais le sentier de la vie. sentier sur lequel nous trouvons le Seigneur, avec sa grâce, ses bénédictions. Il dit parce que c'est un chemin tout tracé. C'est le psaume 84, verset 6. Et selon Ésaïe, c'est la voie sainte. C'est un chemin de vérité, comme dit le psalmiste, de lumière, comme dit Jean et l'Apocalypse, de paix. Amen. En peu de mots, c'est un chemin sur lequel Dieu marche avec les siens. Marcher avec le Seigneur. Savoir qu'il est là dans notre chemin, qu'il est là chaque jour dans notre vie, qu'il nous garde. Et même quand nous ne marchons pas, que nous dormons, il est là. C'est précieux de savoir cela. Dans un monde troublé, on vient de, excusez-moi, de, pas de fêter, mais de commémorer eh bien, ce qui s'est passé sur Nice. Et on pourrait faire des commémorations comme cela toute l'année, parce qu'il s'en passe de partout dans le monde. Et c'est vrai que le trouble est là. On dit, mais beaucoup le disent, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans, qu'est-ce qu'il fait là, le Dieu et les gens se posent des questions. Alors il n'empêche que malgré cela, ou peut-être précisément à cause de cela, eh bien, viennent des questions qui produisent du trouble, qui font que certaines personnes hésitent justement à s'avancer et à s'élancer sur ce chemin, eh bien, duquel elles savent justement que c'est le meilleur. Parce que Dieu, dès le commencement de notre vie, ayant les regards sur chacun d'entre nous, eh bien, nous tend la main. Et j'ai crié, il a répondu. Vous voyez ? Je l'ai invoqué, j'ai appelé au secours. Puis voilà qu'une personne est arrivée. Et puis, elle a pu m'aider, elle a pu me secourir. Mais qui c'est qui l'a envoyé, cette personne ? C'est Dieu. Parce que nous l'avons prié, parce que nous l'avons invoqué. C'est pas Inch'Allah, hein ? Ou le hasard. Non, non, Dieu sait. J'ai entendu des personnes qui m'ont parlé comme ça. Ah, mais vous tombez bien, vous, hein ? Eh oui, pourquoi ? Eh bien, parce que voilà, ça ne va pas. Hein. On tombe bien des fois. Hein. Un jour, je me suis retrouvé devant une maison. Normalement, un monsieur devait être là et puis il ne répondait pas. Il y avait bien le chien. Alors, quand c'est un berger allemand, vous n'osez pas trop aller dans le jardin. Il frappait à la porte. Hein. Donc, du portail, je sonnais. Puis finalement, j'ai vu le rideau bouger. Je lui ai fait signe. Je suis là. C'est moi. Et puis, il m'a ouvert. Et quand je suis rentré dans la maison, d'ailleurs, il avait un drôle d'air. Et il passait par des temps difficiles. Son entreprise allait déposer le bilan. Il était donc le patron. Et quand je suis rentré, j'ai vu poser sur la table du salon un revolver. Parce que monsieur voulait en finir. Il avait touché le fond. Il connaissait le Seigneur, mais vous savez, c'était clopin. Et là, donc, il a pris conscience d'une chose, c'est que il allait commettre l'irréparable et je suis là. Et il a compris. Il me dit, ça, c'est Dieu qui vous envoie. Eh oui, c'est Dieu. Parce qu'il vous aime. Parce que c'est pas fini avec lui. Et c'est vrai que c'est pas fini. Amen. Il est celui qui est, je dirais, le plus grand, le plus beau, le meilleur. Je sais pas comment vous le présenter, hein, parce qu'il y a tellement de superlatifs. Mais on a besoin de lui et rien d'autre. Après, le reste, c'est lui qui nous le donne par-dessus. Mais c'est lui dont nous avons besoin. Alors ici, je fais référence également à la conversion au salut, mais aussi au baptême de l'Esprit, à l'engagement dans le service pour Dieu, quel qu'il soit. On a besoin du Seigneur. Sans lui, nous sommes capables de rien faire de bon. Amen. Il y a un décalage entre ce que l'intelligence et le cœur ont compris et ce que la foi est prête à faire. Il y a un décalage. Vous voyez ? Et il faut justement se mettre au même niveau, ou plutôt remonter un petit peu. Alors bien sûr, Marc nous dit que Bartimée, par exemple, recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. C'est formidable. Il a été béni, il suit le Seigneur, il ne se pose pas de questions. Mais il y en a, hein, on a prié pour eux. Ils ont trouvé un boulot, ils ont trouvé la femme ou le mari qui leur convient. Ils ont été guéris. Alors, je me rappelle de ce gars... Un jour, il m'appelle, il me dit, pasteur, je l'avais déjà vu quelques réunions, il était venu, mais il plaisantait, il avait appelé son magasin au divin. Un magasin de vin, il vendait des spiritueux, des alcools spiritueux, et il avait mis au divin, alors c'était Dix, hein, D-I-X, vin, vous voyez, mais ça faisait divin, vous voyez, il jouait un petit peu avec la question de Dieu. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, pasteur, vous pourriez passer? J'ai dit oui. Alors quand je suis chez lui, dans la vallée de l'Orbe, quand je suis chez lui, Il me dit, voilà, il me dit, cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me dit, j'étais réveillé en pleine nuit. Il me dit, je me suis levé parce que j'avais la sensation qu'il se passait quelque chose dans mon cœur. J'avais mal, je souffrais. Et j'avais soif, j'étais déshydraté. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le robinet, j'ai rempli un verre d'eau. Et puis après, je ne me souviens plus. Je me suis réveillé par terre, j'étais mouillé. Il me dit, je ne sais pas combien de temps j'ai passé allongé. Il me dit, je ne sais pas du tout. Alors, il m'explique sa vie. Sa femme, son parti avec sa fille. Le magasin qu'il avait, donc, était en train de partir en faillite. Il attendait les clients pour aller chercher du pain. Pour que les clients lui payent, par exemple, un alcool, hein, pour aller chercher du pain parce qu'il n'avait plus rien. Tous ses comptes étaient bloqués. Et justement, les factures tombaient, elles arrivaient. Et on lui avait bloqué ses comptes. Alors, il m'explique ça. Et je lui dis, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Il me dit, si je vous appelais, c'est parce qu'il me dit, je suis désespéré. Je n'ai plus rien, plus rien. Alors je lui dis, on va prier pour vous. J'ai prié pour vous. Et je lui dis, maintenant, je ne sais pas comment Dieu va faire. Hein, parce que ça lui appartient. Et il faudra accepter. Il me dit, je suis prêt, d'accord. Et là, il s'est mis à pleurer. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour la situation. Et puis, dans la semaine, alors que tout était bloqué, il n'avait plus le moyen de s'acheter quoi que ce soit. Eh bien, la banque a débloqué. On lui a proposé de prendre une autre affaire. C'est drôle, c'est fou, hein. C'est le miracle, ça. Hein. Et donc, on lui a proposé à Clermont-Léraud, parce que ça, c'était à Bédarieux, à Clermont-Léraud, de reprendre une affaire, de monter une agence immobilière en association avec un tel organisme. Il n'y comprenait plus rien. Et puis, bien sûr, il a compris une chose, c'est que ça venait de Dieu et qu'il fallait s'engager. Il me disait, je peux de nouveau retirer des sous à la banque, j'ai pu payer. Il me dit, je ne sais pas comment ça se fait. Je lui dis, mais on a pris le Seigneur ou pas? Il me dit, oui. Eh bien, je lui dis, croyez. Croyez simplement que c'est lui qui l'a fait. Puis, quelques temps après, on l'a baptisé. Amen. Vous voyez, il a compris, il s'est engagé, il a vu le miracle. Et puis, à partir de là, eh bien, ça va tout seul. Hein. Amen. Alors, la chose peut paraître aisée. Hein, je pense pour Bartimée, par exemple. Mais il faut quelque part se garder de toute évidence trompeuse. Ça ne coule pas de source pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est difficile. Hein, même on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur leur vie? Parce que c'est difficile. Alors on va envisager un petit peu les raisons à cette peur et également eh bien, les solutions qu'on peut y apporter. Ce qu'il faut d'abord, et que chacun sache, c'est qu'il est compris et il n'est pas rejeté même s'il a des craintes. Amen. C'est humain. Est-ce qu'on est humain? Je ne vais pas vous demander de vous repincer, hein, comme à la dernière réunion, mais la réalité, elle est là. C'est que nous sommes humains. Amen. Et la vie ne nous épargne pas. La vie fait justement que quelquefois, on est acculé face au précipice. Et puis, on a peur. Eh oui. Alors, cette peur du jugement, par exemple, du rejet, et qui n'est peut-être pas exprimé, eh bien, peut faire beaucoup de mal et détruire intérieurement eh bien, celui qui en est victime ou celui qui en est l'objet. Savoir une chose, que le refoulement, c'est-à-dire garder ça pour soi, ce n'est pas une solution. Il vaut mieux verbaliser, hein, faire connaître ce qui est ressenti, ou si vous voulez, l'exprimer pleinement. Un jour, j'ai dit à un chrétien de l'Assemblée qui vivait des temps difficiles, il n'arrive pas à s'ouvrir, je lui ai dit, tu montes au Granon et tu cries. Au Granon, il n'y a personne là-haut, c'est la montagne, c'est le col. Hein. J'ai dit, tu te mets là-haut et puis tu cries à Dieu. J'ai dit, vas-y, il faut que tu sors, ça sorte, hein, il faut que tu t'exprimes devant Dieu. Amen. Et c'est vrai parce que c'est... D'abord, comment font les psys? Parlez. Allez-y. Ouvrez-vous. Exprimez-vous. Vous voyez? Et c'est un petit peu ça. Et puis, vous savez, quelquefois, le fait de parler, de s'exprimer, on se rend compte que c'est moins important que ce qu'on pensait. On s'aperçoit que c'est moins dur, moins lourd. C'est plus facile. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, qu'on vide quelque part, qu'on s'exprime, eh bien, il y a des choses qui arrivent. Amen. Jésus s'adresse aux disciples et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi êtes-vous troublés? Il pose la question. Une question, eh bien, attend une réponse. Pourquoi avez-vous si peur? Et certainement qu'ils ont dû réfléchir là. Ils disent, au fait, pourquoi on a peur? Pourquoi justement est-ce qu'on est troublé? Eh oui. Alors, un mouvement de recul avant de croire ou de s'engager, eh bien, peut se comprendre et s'expliquer, bien sûr. Mais il ne faut pas rester là. Hein, parce qu'on a des personnes qui nous donnent des excuses, qui nous expliquent le pourquoi du comment, et tu fais quoi après? Eh oui, il faut y aller maintenant. Hein. Alors il n'est pas question non plus de se mentir à soi-même, hein, de dire que tout va bien quand tout va mal. Eh oui, donc ça c'est dangereux. Et puis c'est décevant aussi. En tout cas, le chemin est entièrement nouveau. Et avant de s'y engager, bien sûr, la personne qui doit l'emprunter, puisqu'elle n'y a encore jamais marché, eh bien, il y a de l'appréhension. Hein? D'ailleurs, Josué le dira hein, au peuple d'Israël, plutôt les anciens, vous n'avez point encore marché par ce chemin. C'est un chemin nouveau. Vous allez l'emprunter pour la première fois. Amen. Alors, ce qui est nouveau, ce qui est inconnu, par définition, peut faire peur. L'inconnu fait peur. Mais dites pas que vous allez tranquille, hein. Oh là, attends, tu me dis quoi là? Attends, je vais bien réfléchir d'abord. Hein. Et oui, mais c'est ça. Hein. Alors cela oblige bien sûr à quitter ses repères, ses références, sa sécurité. Sécurité qui, d'ailleurs, peuvent parfois être trompeuses. La fausse sécurité. Vous voyez? Attends, mais j'y comptais dessus, je croyais que c'était ça. Et oui. Alors seulement. Eh bien, il faut bien y aller. C'est-à-dire qu'il faut un début à tout. Il faut y aller, hein, il faut se lancer. Et quand le Seigneur a dit à Pierre, viens, suis-moi, parce que Pierre lui avait dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi en marchant sur l'eau. Il faut franchir la barque, hein, il faut traverser. Ensuite, il faut marcher, poser le pied. Et c'est de l'eau, hein, normalement. C'est de l'eau, vous y croyez aussi. Hein, parce que moi, j'y crois, ça. Hein. Et je crois que Pierre, il a marché sur l'eau. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il crie au Seigneur parce qu'il est en train de prendre le bouillon. Hein. Alors, bien sûr, il y a un début à tout. Et si on attend de savoir, par exemple, nager avant d'aller à la piscine ou à la mer, est-ce qu'on va apprendre à nager? Il y en a, je sais, ils mettent la chaise ou deux chaises, ils se mettent à l'ange dessus, puis ils nagent. Mais il n'y a pas l'importance de l'eau. Hein, ce n'est pas pareil. Hein. Il faut quand même aller à la piscine ou à la mer pour apprendre à nager, parce que sinon, on ne fera pas des progrès. Alors, la difficulté de quitter certaines habitudes. Ça, c'est un poison, c'est terrible. Il est théoriquement facile d'affirmer et même de croire que le chemin de la lumière, eh bien, il est préférable à celui des ténèbres et que la vérité est préférable au mensonge. Vous voyez, parce que, eh bien, on a été piégé ou soi-même, on s'est retrouvé piégé dans un mensonge, par exemple. Et c'est difficile de s'en sortir. Alors seulement, celui qui a toujours vécu, je dirais, sur une mauvaise voie, c'est difficile pour lui de marcher sur la voie juste. Hein? Tout en sachant qu'il doit changer de route, eh bien, il peut ressentir une sorte de vertige à la pensée, par exemple, eh bien, d'avoir une conduite qui soit droite, irréprochable. Ça peut être difficile. Parce qu'il va avoir du mal à s'imaginer, par exemple, eh bien, de vivre sans drogue, de vivre sans commettre de péché. Hein, sans mauvaise relation également, ou tout ce qui peut faire sa vie d'autrefois, hein, tout en sachant eh bien, que ce serait quand même mieux. Parce que la déception est là. Hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous, on éduque nos enfants correctement, on leur donne le mieux, hein, pour que justement ils puissent dans la société eh bien, réussir. Et puis ils viennent de mauvaises relations. Voilà que les mauvaises relations eh bien, vont transformer l'acquis, hein, ce qu'on a donné, en quelque chose de mauvais. Vous voyez? Et puis, eh bien, on se fait mal. On souffre. On n'a plus envie de rester comme cela. C'est la galère, comme disait un jour quelqu'un. Eh oui. Et puis, on a besoin de revenir à un chemin plus droit, meilleur. Amen. Alors, bien sûr, c'est préférable, on le sait, hein. Celui qui a toujours vécu sur une mauvaise voie, tout en sachant qu'il doit changer de route, eh bien, peut ressentir cette sorte de vertige à la pensée de devoir le faire. Il a du mal à s'imaginer ces choses-là, bien sûr. Hein. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu disait à Israël, « Comment pourriez-vous faire le bien? Vous êtes accoutumés à faire le mal. » Et cette question est importante. Hein. Comment est-ce que ça peut changer? Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Ou alors de l'autre, en face. On dit, « Mais il a toujours été comme ça. » On ne peut pas espérer qu'il change, c'est impossible, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, ça pose le problème et la difficulté de changer de vie, de destinée, bien sûr. Hein. Quand on a toujours vécu dans la nuit, eh bien, il y a la crainte de devoir vivre en pleine lumière. Eh oui, eh oui. Quand on a toujours zigzagué, La ligne droite, ça donne un vertige, hein, bien sûr. Hein. Un petit peu comme les navigateurs, vous savez, qui sont tellement habitués au tangage hein, de leur bateau, bien sûr. Hein. Eh bien, après, ils ont le mal de terre quand ils reviennent au port. Eh oui, quelquefois, on a le mal de mer, nous, quand on va sur le bateau, mais eux, c'est au retour. Parce que ça tangue toujours, donc ils sont toujours en mouvement, etc. Et il y a le mal de terre, bien sûr. Alors, en fonction de notre situation et notre condition présente, eh bien, le chemin de vie, la repentance, la conversion, ça prend un sens précis, mais surtout pratique. Amen. En entendant ces choses, peut-être plusieurs parmi nous peuvent commencer à donner une portée concrète à ce que va signifier justement s'engager sur le chemin de la foi. Hein, que ce soit eh bien, pour une vie nouvelle, une vie plus intense, pour un meilleur service. Pour nous, enfants de Dieu, eh bien, déjà nous l'avons fait, mais lâcher peut-être des choses encore encombrantes, bien sûr, pour faire table rase justement d'un passé qui peut nous freiner, nous ralentir dans notre marche, parce que ça pèse, c'est lourd. Ah oui, il faut le faire. Amen. C'est peut-être en rapport avec des situations de la vie. Et vous savez que la vie nous présente des situations. Hein. Et là, c'est en train de mesurer les conséquences. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Eh oui. Alors les domaines concernés peuvent être entre autres les relations avec le matériel, l'argent, la vie affective, la situation également conjugale, l'usage du mensonge, les excès de toutes sortes, le jeu, ben oui, ça vous prend, ça vous happe, vous êtes après harponné, c'est fini. Des mauvaises priorités et j'en passe comme cela, il y en a de nombreuses. Alors face à ces domaines, la question est, je sais que je dois changer, je veux le faire. Mais que va-t-il m'arriver ensuite? Comment ça va se passer? Quelles vont être les conséquences? D'abord, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je serai suffisamment fort pour pouvoir y arriver? Vous voyez, c'est des tas de questions. Bon, après, un jour, c'était une colo, plutôt un camp d'ado, et sortant du bâtiment où on avait le culte, je trouve sur le côté gauche une jeune fille. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, tu te rebelles contre ce qui est en train d'être dit. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle me dit, j'aime le Seigneur, mais j'ai peur parce que je vais rentrer chez moi. Et chez moi, c'est pas comme ici. Elle me dit, c'est pas comme ici. Elle me dit, j'ai peur parce que là, je suis en train de me faire du bien, je suis en train de vivre des choses, mais à la maison, ce sera pas pareil. Alors, j'ai pu parler avec elle et on a pu aborder certaines choses. Et surtout, je lui ai dit, mais tu sais, le Seigneur, il va te suivre, il va être avec toi. Puis si toi, tu changes, autour de toi, ça, il y a ce risque de voir des changements. Amen. Bien sûr, il y aura toujours l'opposition, l'adversité. Mais tu n'es pas seul si simplement tu fais confiance au Seigneur. Si tu l'acceptes, tu lui demandes, je te demande de prendre toute la place dans ton cœur. Amen. Alors, nous sentons très bien. Une chose, c'est que la porte est étroite, que le chemin, il est resserré, et comme le dit Jésus à propos justement du salut de la vie éternelle. Ce sont également ces choses, et d'autres encore, qui peuvent créer eh bien, le trouble, provoquer peut-être un malaise, un véritable malaise intérieur, hein, bien sûr. Et ce matin, je voudrais plutôt vous encourager pour que vous faire peur, vous amener à la crainte justement dans votre cœur par rapport à ce qui est dit et ce que eh bien, peuvent vivre certaines personnes. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de devenir des funambules. Amen. Hein, de se mettre sur une corde raide, savoir si on va arriver. Non, non, pas du tout. Alors, il est vrai qu'il fait appel à notre foi. Est-ce que j'ai confiance en lui? Ça, la foi. Est-ce que je vais eh bien, me confier pleinement à lui? Il ne demande pas d'être des gens téméraires et imprudents, au point justement de devenir des fanatiques. Non, pas du tout. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide ou dans l'inconnu, malgré certaines apparences. Hein. Voici quelques repères. Voyant notre trouble, le Seigneur ne commence pas par nous écraser de mépris. D'accord? Mais il veut nous expliquer le bien fondé du chemin dans lequel il faut nous engager. Il nous demande de le suivre, danser, marcher dans ses traces. Il nous fait également entrevoir la fin de toute chose, comme il l'a fait avec les disciples qui le suivaient. C'est-à-dire qu'ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, ils le suivaient avec crainte, nous l'avons lu. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait leur arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verre et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Vous voyez qu'autre cas ne se trouve pas. Je vous explique ce qui va se passer. Amen. Alors quelque part, un bon pédagogue, il dévoile que l'issue sera bonne, malgré l'apparence. Hein? Malgré que, eh bien, il y a la croix, c'est un semblant de défaite. Il était maudit de Dieu, cet homme, pour monter sur le bois de la croix. Il mérite. Il va mourir. Mais il ressuscitera. Amen. L'issue sera bonne, sera heureuse, sera belle. Amen. Et ceux qui ne sont pas prêts, pour une raison ou pour une autre, à s'engager à suivre Jésus, sur le chemin de la foi, dans tous les domaines, je dis bien, pour le salut, pour l'engagement, pour le service, pour la consécration, eh bien, ils ont besoin, je dirais, plus que d'autres, d'une aide extérieure qui leur est nécessaire. Qui peut venir nous secourir? Mon mari, ma femme, mes parents, le pasteur, l'ancien, qui? Le Saint-Esprit. Amen. Il est notre assistant. Gloire à Dieu, il est là. Hein? J'en disais tout à l'heure sur le Saint-Esprit. Hein? Quand l'Esprit de Dieu est là, il agit, il se manifeste. Alors bien sûr, il n'est ni suffisant ni satisfaisant, par exemple, de s'arrêter, par exemple, sur un constat d'échec. Vous réussissez tout dès la première fois. Vos premiers pas. Nous, on a Angela en ce moment. Hein? Eh bien, faire les premiers pas, c'est difficile. Hein? Tant plus qu'elle a encore les pieds comme ça. Mais oui, il a fallu se relever. Il a fallu recommencer à marcher. Et puis à l'école, vous avez tout réussi. Les meilleures notes, tout le temps. J'ai un petit neveu, moi. Il a eu un bien. Mais parmi tous, c'est très bien. Il dit, ce bien-là, il faudrait l'effacer de mon cahier. Vous comprenez? Il n'a eu que des très bien toute l'année. Il a dit, mon année, elle est gâchée par ce bien. Bon, c'est exceptionnel, hein? Sa sœur n'est pas comme ça, mais lui, il est. Alors, oui, est-ce que vous ne vous êtes jamais trompé? Est-ce que vous n'avez jamais eu de crainte, de peur? Et de dire, maintenant, c'est fini, je peux plus, je suis plus digne du Seigneur. Eh oui, non, il faut y aller. Amen. Hein? Et il ne faut plus s'enfermer ou ne pas s'enfermer, justement, hein, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire avoir une impression créée par des mauvaises attitudes. Non. Hein? Tout le monde peut changer. Tout issue peut être inversée. Tout chemin peut s'ouvrir alors qu'il est fermé. Amen. Et si quelqu'un ne se sent pas prêt, eh bien, en s'approchant encore plus près du Seigneur. Amen. En lui disant, Seigneur, secours-moi. J'ai foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Hein, ce n'est pas cet homme qui l'a dit pour son fils. Nos erreurs également peuvent nous avoir disqualifiés pour un temps. Mais ce temps peut s'achever si simplement nous le voulons. J'ai conscience que ça peut évoluer, ça peut changer. Amen. Hébreux 8 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit, hein, il obéit pour, et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais le Seigneur lui a dit, avance, je te montrerai. Alors Abraham partit sans savoir où il allait, oui, mais Dieu le savait. D'accord? Il avait préparé justement un lieu en héritage pour lui. Et cette attitude n'a rien à voir, je dirais, avec un esprit aventureux, non. La foi s'appuie sur ce que Dieu a donné, ou ce que Dieu demande, ou ce que Dieu dit, ce qu'il promet. La foi s'appuie là-dessus. Amen. Ainsi, il est important d'avoir compris la nécessité, eh bien, de prendre le départ avec le Seigneur, de savoir que c'est lui que l'on suit, et pas un autre. Amen. Il faut suivre Jésus. Térak, père d'Abraham, il est mort en route, pour être parti, lui, sans vocation, sans appel. Amen. L'autre, le neveu, quant à lui, il a eu bien des difficultés sur le chemin parce qu'il suivait plus son oncle Abraham que Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Peut-être de la difficulté, là. Alors, c'est important Car si l'on suit uniquement des hommes, eh bien, bien des choses pourront nous arrêter en chemin. Qui est parfait ici-bas? Qui est parfait ici-bas? À part le Seigneur. Elle est parfaite. Un jour, c'est un homme, vous connaissez l'histoire, hein? Le prédicateur demandait, justement, je ne sais plus à propos de quoi. Et l'homme a levé la main, et à côté, il y a une voix qui a dit « Roger !» Roger, il a baissé la main. C'était sa femme, hein? Vous avez compris, bien sûr, hein? Ben oui, eh oui. Nul n'est à l'abri d'une erreur. Nul n'est à l'abri de passer par eh bien, un moment de crainte, de doute. Amen. Mais est-ce que pour autant on est disqualifié? Est-ce qu'on doit s'arrêter? Amen. Non, bien sûr. Hein? Bien des choses peuvent essayer de nous arrêter. Je lève les yeux, disait David, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours, il me vient de l'Éternel. Amen. Donc il faut dès le départ se placer dans une attitude, je dirais, et une mentalité de disciple. Amen. Il est le maître, je suis l'élève. Le disciple est conscient de suivre Jésus et il s'attend à lui parce qu'il va dépendre de lui. Amen. Vous connaissez ce chant? Seigneur, je veux dépendre de toi. Alors j'en dirai tout à l'heure. Hein? Non seulement la foi est nécessaire au départ de la vie nouvelle, mais elle va le rester également tout au long de notre vie. J'ai eu foi pour répondre à l'appel de Dieu. Et oui, j'étais en train d'être plongé dans la misère. J'étais dans le pétrin pas possible. J'ai dit oui, Seigneur. Mais après, il faut continuer à dire oui, Seigneur. Amen. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu dit, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai. Il n'est pas dit que c'est l'homme qui va le faire. Mais c'est Dieu. Je t'ai appelé. C'est lui qui nous a appelés, hein, pour le salut. Je te prendrai par la main. Et combien on a besoin en tant que nourrisson spirituel que quelqu'un nous tienne par la main. Je te garderai et je t'établirai. C'est lui qui le fait. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, il rajoute une promesse. Je te garderai à l'heure de la tentation parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Dans le Cantique des degrés, le psalmiste dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Gloire à Dieu. Enfin, Jude, le frère du Seigneur, va dire ceci, il peut vous préserver de toute chute. Mais il faut être honnête, vrai. Amen. Quand on s'est planté, quand on a failli, il faut le reconnaître. Amen. Et puis Dieu ne saurait mentir, sa parole et ses promesses sont notre garantie. Amen. C'est la parole de Dieu. On le dit. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Eh bien, heureusement, parce que si c'était la parole des hommes, ça va être garanti, là. Avec le Seigneur, c'est oui, c'est amen. C'est pas un peu oui, un peu non. Donc pour nous, il est indispensable de nous appuyer sur elle, et pour chasser nos craintes, pour eh bien enlever nos troubles, pour faire partir cette faiblesse, cette peur, cette crainte qui est là. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Amen. Un jour, ça se passe en Afrique, lors d'une mission, une dame qui était là, elle savait pas lire. Mais elle avait la Bible qu'on lui avait donnée, ou au Nouveau Testament. Et elle revient chez elle, puisqu'elle était malade. Et elle a dit une chose. Le pasteur ou l'homme de Dieu a dit qu'il fallait s'appuyer sur ta parole pour trouver la solution, pour être guéri, pour être relevé, pour être sauvé. Sur ta parole, elle s'est mise à les deux pieds sur la parole, la Bible. Et elle a dit, Seigneur, je descendrai que quand je serai guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a été guérie. Amen. Elle a été guérie. Parce que toute simple comme elle était, elle avait compris qu'il fallait s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Elle l'a fait et puis elle a vécu le miracle. Amen.